Chers frères et sœurs et chers amis, aujourd'hui nous continuons cette série d'enseignements et nous arrivons à l'étude numéro 5. Et le titre de cet enseignement, c'est le don de la sagesse. Supposons que nous avons suivi toutes les propositions décrites, que nous avons ouvert nos vies à la création et à la créativité de Dieu, que nous avons appris la prière pour avoir la foi et pardonner, surtout pardonner à ceux qui nous ont offensés. Alors, sommes-nous maintenant parfaits? Si oui, d'où vient alors cette surdité qui nous envahit parfois et que certains jours, dès le matin déjà, nous ressentons telle une lourdeur qui nous submerge en quelque sorte et que nous sommes tendus et sans enthousiasme? Tient-il seulement au fait que nous avons encore besoin de plus de foi, peut-être surtout plus de pardon et de créativité? Il se peut bien, pourquoi pas, car, voyez-vous, nous sommes loin d'être parfaits. Mais quelque chose en nous nous empêche de recevoir certaines bénédictions. Doit-on alors encore vivre plus de joie sainte, comme par exemple par le langage? Beaucoup de personnes conçoivent le langage comme une médecine générale, mais je ne crois pas qu'un seul médicament peut soigner tous les maux. J'ai vu des personnes dans un état d'esprit dangereux, uniquement parce qu'elles n'ont fait que rechercher plus de stimulation superficielle, je dis bien superficielle du Saint-Esprit, au lieu de réfléchir sur les problèmes dans leur subconscient. Alors, quelles sont les raisons de nos malheurs, de nos pensées soucieuses et souvent incontrôlables? En d'autres termes, comment ces racines de l'amertume peuvent-elles être tirées hors de nous? Même si nos souffrances ont, par exemple, un lien avec les situations actuelles, elles ont souvent leurs racines dans le passé. Et oui, nos soucis sur un modèle discutable étaient construits dans le passé et nos réactions sentimentales le suivent. Et pareil, que quand nous glanons et suivons un chemin à travers les champs. Heureusement qu'il existe aussi de bons et plaisants modèles de réflexion parmi nos souvenirs. Par exemple, la réjouissance électrique du jour de Noël, avec ses cadeaux, son sapin éclairé, et le petit Jésus dans sa crèche, les premières fleurs du printemps. Et lorsque un tapis de fleurs a vraiment coupé le souffle, s'étend sur la terre teintée d'ocre, et que nous voyons les oiseaux qui chantent, et nous les entendons, et là, ils partent tranquillement de leur vol merveilleux. Alors, ces souvenirs, ce sont en quelque sorte des fenêtres ouvertes sur la joie qui existe dans un pays duquel nous étions originaires. Mais entre ces beaux morceaux collectionnés, il y a aussi, et bien entendu, des souvenirs qui sont douloureux. Et cela, on essaye de les oublier à tout prix, mais souvent, c'est impossible. Et s'ils nous reviennent à la conscience, nous essayons de les refouler en disant « Je ne veux pas penser à cela Pour le moment, il n'y a rien à faire. Et s'il ne pourrait pas être changé en de beaux souvenirs, il serait donc intelligent de nous en détourner de cette manière. Car pourquoi, je vous le demande, pourquoi passer notre vie à se tracasser pour quelque chose d'immuable? Mais, on ne devrait pas mettre ces souvenirs de côté, car ils peuvent être transformés. Gloire à Dieu. Une autre faute souvent commise, c'est d'accepter que cette ombre qui nous poursuit, cette fausse impulsion, cette étouffante peur est essentiellement le fait du diable et que nous croyons devoir l'exorciser sans essayer d'en savoir plus à ce sujet. Mais attention, oui, attention au danger de prendre la parole du diable pour la parole de Dieu. Par exemple, si nous disons quelque chose de vulgaire ou de méchant, en ajoutant que c'est Dieu qui l'a mis en nous, alors il est tout autant possible de prendre la parole de Dieu pour celle du diable. Le Saint-Esprit, voyez-vous, il ne vient pas sur terre pour nous rendre la vie automatiquement confortable, mais pour nous la rendre inconfortable, pour nous juger et nous montrer nos vices cachés et nos peurs refoulées. Et ceci afin que nous puissions trouver des chemins et des voies pour les guérir. La prochaine étape que nous avons à faire, c'est dès l'écoute, oui, en quelque sorte, nous devons nous donner la peine d'écouter pas seulement notre ego, mais de demander à Dieu à quoi tout cela est bien dû, à quoi cela est, d'où vient la source en quelque sorte. Et alors les personnes dépressives qui sont forcées de par leur maladie, et je dis bien par leur maladie, à prier, elles ne peuvent pas le faire au début, c'est clair, mais maintenant, quand ils ont reçu la paix du Seigneur, ils le peuvent. Et oui, il a été dit à certains d'entre nous qu'il était possible d'arriver automatiquement à la délivrance simplement en acceptant Jésus-Christ dans son cœur. Et d'autres encore croient que le Saint-Esprit nous enlève de lui-même, toutes nos peurs et tous nos problèmes qui sont parfois graves, sans que nous avons à nous en occuper nous-mêmes. Eh bien, Dieu merci. Parfois, cela peut arriver, mais pas toujours. On est transformé à l'intérieur, sans même le remarquer. Par exemple, moi, j'ai grandi avec une peur des chiens. Oh, je suis sûrement pas le seul. Or, un jour, au bord d'une route, j'aperçois soudainement deux immenses chiens, on peut dire des vrais veaux, accourir d'une terrasse vers moi. Je voyais déjà la mort et la destruction dans leur gueule grande ouverte. N'ayez pas peur, ils ne mordent pas, cria une femme à travers la porte. Tout de même, j'ai eu, on peut le dire, et je ne me cache pas de le dire, j'ai eu la peur de ma vie. Quelques années plus tard, ma mère, qui m'avait plus revu depuis un certain temps, elle me demanda, dis-moi, Henry, depuis quand tu n'as plus peur des chiens? Très étonné de cette question, j'ai répondu, oh, je ne sais pas trop bien, Peut-être que j'ai eu, dans le passé, quand j'étais petit, une peur bleue des chiens, mais plus aujourd'hui. Alors, par quelle méthode de Dieu m'avait-il guéri de cette peur? Ça ne m'étonne pas qu'il s'est servi par le biais de ces créatures, les chiens, pour enlever la peur future de tout chien, gros ou petit. Car alors, quand par exemple je commençais à vivre en Christ, eh bien malgré l'appréhension à l'égard des chiens, voyez-vous, chose curieuse, les chiens venaient vers moi et me montraient d'une manière ou d'une autre qu'ils m'aimaient beaucoup. C'était merveilleux, cette transformation, voyez-vous, que le Seigneur peut opérer en nous. Combien de racines de l'amertume et de la peur ont été ainsi débroussaillées sans que nous sachions le quand et le comment. Et malgré tout, il nous reste encore bien des souvenirs douloureux, desquels Dieu guérit uniquement si nous travaillons consciencieusement et pour de bonnes raisons à cela, car nous devons aussi y participer, il me semble que c'est clair. Voyez-vous, notre âme aurait plus de tort que de bien si elle guérissait sans effort aucun, car nous devons apprendre quelque chose de tout cela. Et cela peut être très facile si nous sommes simplement prêts pour cela. Mais il y a de l'espoir, oh oui, de l'espoir parce que Dieu en personne a créé le temps et l'espace, et parce que ce que il a vu notre malheur et il est devenu chair. Oui, il est devenu homme et ainsi entra dans le subconscient collectif de l'humanité. Je répète, c'est ainsi qu'il est entré dans le subconscient collectif de l'humanité. Et dans le subconscient de chacun, de là, il nous aide maintenant. Qu'il soit donc loué, le Seigneur. Il ne nous a pas uniquement préparé ce seul chemin, mais encore bien d'autres pour nous venir en aide. Chers amis, il n'est pas conseillé pour une personne dépressive de réfléchir trop à tous ces problèmes qu'elle a. Mais dès que nous avons appris à suivre les lois de Dieu, alors là, on peut commencer à réfléchir. Nous n'avons pas besoin de faire le chemin tout seul, car certaines fois, nous avons besoin d'un vis-à-vis. Alors un ami ou un ancien comprend peut-être mieux le message du subconscient lorsque notre conscient est trop irrité. Certaines personnes ont des conseillers spécialisés qui les aident à analyser leurs rêves et à mieux comprendre leur personnalité. Personnellement, je suis très heureux de n'avoir rien su de la psychologie et de la psychiatrie pendant ma période de dépression et de n'avoir pas eu non plus de conseiller. Dieu m'envoya des amis pour prier, oui, et une fois l'un ou l'autre, parfois c'était un ancien, parfois c'était une sœur en Christ. Et je fus souvent éclairé par la discussion, ce qui m'a beaucoup aidé à trouver des solutions. Donc, chers amis, ne dites pas je n'ai aucune foi. Ton conscient va le croire et ça sera ta volonté de croire ou pas en Dieu si tu dis que tu n'as aucune foi. Ayez donc, je vous en prie, mes chers amis, la foi en Dieu. Les blessures de vieux souvenirs peuvent être très profondes. Le mur de protection que le subconscient a construit à cause de cela est bien solide et tu n'as pu le casser avec tes paroles car elles sont trop habituelles et trop familières pour ton subconscient. Et alors il dira « Oh, ce n'est rien que toi avec tes balivernes, c'est bien toi. Et tu continueras certainement à t'enfermer dans ta cage que tu as construit au cours des années toi-même. Alors trouvons un chemin pour te convaincre. Pardon. Donc tout d'abord, je formule une simple prière. C'est important. Et je prie spécialement pour toi, comme si je serais avec toi. Et tu peux lire cette prière d'abord calmement, en prenant le temps lorsque tu es seul et que tu n'es pas dérangé du tout. Ensuite, lis par exemple cette même prière que je vais te donner tout à l'heure, à haute voix, en t'imaginant que ce n'est pas ta propre voix que tu entends, mais la mienne. Non pas ma voix en tant qu'homme, surtout pas, mais en tant qu'être spirituel, ça change tout. En tant qu'être spirituel, lequel Dieu, le Saint-Esprit, veut bien employer comme un canal pour guérir une âme. Et si tu te donnes la peine de réciter, par exemple, cette prière à haute voix, ce n'est pas un péché, eh bien, tu peux être certain que Dieu, d'une manière insoupçonnable, se servira de quelqu'un pour accomplir en toi ce qu'il a déjà voulu accomplir depuis longtemps. Il a voulu le faire depuis longtemps en toi et pour toi. Et je vous rappelle que Jésus-Christ est en ce moment même, il est parmi nous. Comme il l'avait du reste promis, qu'est-ce qu'il a dit dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 20 ? Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous sommes donc réunis avec l'Esprit dans le royaume de Dieu, même si nous sommes à des endroits différents. Jésus-Christ est parmi nous aussi réellement que l'air qui nous entoure, et ceci malgré que nous ne pouvons pas le voir. Je lui dis, car je sais qu'il est là, mon ami, ouvre bien tes oreilles maintenant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voici donc la prière que le Seigneur m'a donnée pour vous. Et vous pourrez la réciter en la répétant après moi, et cela sera quelque chose qui va vous aider, soyez-en sûrs. Donc, voici la prière. Mon Seigneur, je te prie de venir en cet homme ou en cette femme qui a un grand besoin de guérir son âme. Je te supplie, Seigneur, de venir prudemment en lui, en elle, tel que le concierge qui entre dans une maison délaissée depuis tellement longtemps. Ouvre toutes les fenêtres et laisse entrer le vent, ce vent frais du Saint-Esprit. Ouvre aussi toutes les volets pour que la lumière de ton amour remplisse la maison de l'âme et de l'esprit. Où il y a la lumière, il ne peut pas y avoir d'obscurité. Je me réjouis que la rayonnante lumière de ton amour éclaire la maison de l'âme et que toute noirceur est chassée. En ton saint nom, Seigneur, je parle maintenant à cette noirceur et lui dit qu'elle ne peut pas rester dans cet homme, dans cette femme, car tu l'as déjà libérée sur la croix. Oh oui, regarde, Seigneur, s'il n'y a pas aussi de laides images sur les murs, des images douloureuses du passé, s'il y a de telles images, décroche-les. Seigneur, et remets dans cette maison de souvenirs de belles et joyeuses images. Transforme tout ce qui est laid en beauté, car ceci, c'est ta nature. Transforme les vieilles douleurs en force pour consoler les autres. Soigne les vieilles blessures par ton amour libérateur et transforme-les en amour à ta manière sublime pour que eux aussi puissent soigner les blessures des autres. Va dans toutes les pièces de cette maison pleine de souvenirs. Oui, Seigneur, ouvre toutes les portes, regarde dans toutes les armoires et tous les tiroirs. Si tu découvres des choses qui aujourd'hui ne sont plus utiles dans la vie de cette personne, enlève-les entièrement. Je te remercie, car c'est ce que la Sainte Bible nous a promis. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de nous nos transgression. Seigneur, observe tous les mauvais souvenirs qui traversent l'esprit de cet homme et de cette femme et accomplis dans ta grâce ce que depuis longtemps tu as déjà accompli sur Golgotha, le pardon pour ton serviteur et pour ta servante. Va aussi dans la chambre d'enfant de cette maison et observe les années de son enfance. Ici aussi, ouvre tout grand les fenêtres verrouillées depuis si longtemps et laisse entrer le doux rayon de lumière de ton merveilleux amour. Surtout ici, fais le ménage et rends tout beau et propre, Seigneur. Prends le balai de la piété et balaye toutes les saletés qui sont au sol, tous les tourments, les peurs de la honte, de vieux souvenirs, ces souvenirs qui sont peut-être dus au péché inconscient de l'enfance, ou alors des péchés de ses parents qui auraient dû être tels que Dieu envers ses enfants, mais ne l'était pas du tout. Prends un chiffon propre, oh oui, Seigneur, et enlève toute la poussière. Enlève les taches sur les murs et les meubles. Lave ton enfant avec de l'hysope, Seigneur, que son cœur redevienne pur. Lave cet homme, cette femme, pour que son âme, qui a été créée à ton image et qui te ressemble, soit plus blanc que neige. Seigneur, renforce l'image de ta nature éternelle dans cette âme. Renforce la lumière en elle, de laquelle nous sommes issus. Si l'âme devait déjà être assombrie avant la naissance à cause des soucis et à cause des peurs de ses parents, Alors je te prie de guérir aussi ses souvenirs et ses impressions afin qu'il soit changé d'après ton plan originel et que son âme puisse devenir libre et pure, comme si son rayonnement n'avait jamais été affaibli. Je prie pour que tu rétablisses cette âme, Seigneur, telle que tu l'as voulu, que tu l'as réveillée et la renforces dans toutes ses impulsions et dans toute sa créativité que tu avais mis en elle, et que lesquels sens tu as bien voulu donner à cette vie-là, et sache que ce sens est maintenant réalisé. Oui, il restaure mon âme, disait le roi David. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son saint nom. Psaume 23, verset 3. Je te remercie, ô Seigneur, car je sais que cette guérison est ta volonté et la raison pour laquelle tu as donné ta vie. Je te remercie que cette guérison est maintenant accomplie parce que nous demandons et prions dans la foi en toi. Amen. Chers amis, j'espère que ces suggestions ont pu ouvrir une porte dans ton subconscient et que le Seigneur t'a accompagné dans ton passé afin que tes mauvais souvenirs soient maintenant guéris. À quoi tu le remarqueras? Eh bien, si tu penses exactement à ce qui te faisait tant souffrir et que tu cachais derrière des portes closes et que tu ressens maintenant de la joie, alors là, tes anciens souvenirs qui étaient malsains sont maintenant guéris. Alléluia. Et s'ils ne sont pas guéris, eh bien, on peut encore essayer bien d'autres choses. Le subconscient, il est d'une nature très timide. Peut-être n'est-il pas tout à fait convaincu qu'un tel mauvais souvenir peut être guéri, ou un si grand péché pourrait être pardonné. Il n'a que des mots pour cela. Mais tu es beaucoup trop impliqué dans ce problème pour dire puissamment et surtout calmement les paroles libératrices. Donc ton âme, il entend aussi mes paroles. Ton âme et ton esprit les entend, et que tu entends, mais seulement comme si c'était de très loin et d'une façon généralisée pour l'essentiel. Alors je pense tout de même que c'est une bonne thérapie, car je sens qu'il y a une force indéfinissable qui part non seulement de mon esprit, ça ne part pas seulement de l'esprit, mais aussi des autres personnes qui, eux, y prient. Ils prient avec moi. Et tout cela se transmet maintenant sur toi. Je ne peux par contre pas garantir que c'est la meilleure méthode ou thérapie pour chaque individu. Pareil au médecin, car le médecin ne peut pas non plus garantir qu'un antibiotique peut guérir tout le monde. Cependant, voyez-vous, ne perdons pas courage, car nous n'avons pas encore exploité toutes les possibilités. Si une personne n'arrive pas à calmer sa conscience par de l'autocritique, par exemple du regret ou de l'amélioration, mais qui cherche conseil et consolation, elle devrait alors avoir ou voir surtout son pasteur. Pourquoi ne pas aller le voir, ou un ancien, ou d'autres envoyés de Dieu, et leur exposer son chagrin? Remarquons le lien que nous découvrons dans notre Bible. Par exemple, entre la conscience et le chagrin. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais elle nous dit aussi que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Donc, en effet, chaque blessure de l'âme, trop profonde pour être guérie par la prière ou par la réflexion sur nous-mêmes, est inéluctablement liée avec un péché ancré dans notre subconscient. Soit un péché que nous avons personnellement commis, soit un péché qu'une autre personne nous a imposé. Certains d'entre nous sont si profondément blessés qu'ils ne peuvent pas être guéris par eux-mêmes, mais seulement par les autres. Donc, au-delà des centaines d'années, l'Église, elle a établi avec la confession une formule simple de prière pour la guérison de l'âme et du pardon des péchés. Par exemple, dans l'Église catholique, les paroles de la confession sont déterminées noir sur blanc. Avec cela, on constate que l'on a péché catégoriquement de sa propre faute. Cela ne laisse donc guère à une personne la possibilité de dire « Mais attendez un peu, c'est X, Y qui m'a fait cela. » Ou bien « Ce sont les circonstances qui étaient telles que, etc., etc. » Ou encore d'autres contestations. Nous devrions pouvoir dire « J'ai vraiment commis les péchés suivants et les énumérer. » Et se remémorer tous les péchés qui aboutissent en quelque sorte que nous puissions comprendre que dans notre conscience c'est pas très net et qui ont poussé donc la personne à faire ce pas difficile. Et alors, nous nous confessons maintenant à Dieu. C'est important. Et en présence, pourquoi pas, d'un curé ou d'un pasteur. Il est d'une grande importance que nous nous confessons à Dieu personnellement et que le curé ou le pasteur font seulement état d'intermédiaire. Alors dans cette confession, le devoir le plus important du curé ou du pasteur consiste à prononcer le pardon dans l'autorité. Oui, il faut qu'il le fasse dans l'autorité laquelle a été propagée par l'apôtre Jean. Oui, l'apôtre Jean, après que Jésus-Christ lui avait dit « Recevez le Saint-Esprit, et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est écrit dans Saint Jean, chapitre 20, versets 22 et 23. Donc, le curé ou le pasteur prononce le pardon pour tous les péchés de la personne qui se confesse. Mais ne comprenons pas ça d'une façon erronée. Voyez-vous, le curé est un vrai prêtre et un vrai pasteur. Il comprend tout l'ensemble de la Sainte Parole. Il comprend que ce n'est pas lui qui pardonne les péchés de sa propre force et de sa propre volonté, mais seulement dans la mesure où il réalise le pardon de Dieu à travers Jésus-Christ. Donc, il le prononce à haute voix et avec pleine de puissance, telle que le subconscient accepte la réalité de sa libération par le pardon des péchés. Alors le poids il a disparu, et le chagrin est remplacé par de la joie et par du dévouement. Et cela est la manière formelle d'arriver à travers les paroles et à la délivrance. C'est ainsi qu'on va arriver à la délivrance totale, ce en quoi consiste tout de même le sens chrétien. Et au fond, la bonne parole, elle est chrétienne et évangélique tant que Jésus-Christ pardonne. Il y a aussi un effet prometteur avec la manière informelle. Si on a des problèmes, on peut aller vers notre conseiller, vers un ancien, et lui exposer nos soucis et nos péchés pour qu'il prie et donne la confirmation, ou on peut dire la confirmation au subconscient, voilà, et qu'il est maintenant donc libéré. Tu es libéré maintenant, cher frère et chère sœur, de toutes ces peines. Et cela est absolument possible. Donc, le problème, c'est que beaucoup de ces conseillers et anciens et soigneurs d'âmes ne veulent pas toujours prier pour le pardon des péchés, mais préfèrent d'abord essayer autre chose. Et ils renvoient les personnes souffrantes avec ce genre de paroles telles que « Oh, ne vous en faites pas trop, Dieu est tolérant. » Ou encore « Il ne faut pas tout prendre trop au sérieux. » Et j'ai souvent entendu des suites dramatiques qui ont été causées par de telles paroles très superficielles. Mais qu'aurais-je pu faire d'autre ? S'étonne-t-il par la suite ? Avez-vous une meilleure idée ? La réponse est simple. Ils auraient dû prier avec cette personne souffrante. Au lieu de cela, ils lui ont dit simplement qu'elle doit amener ses problèmes par la prière devant Dieu. Mais précisément, cela, elle ne le pouvait pas. Sinon, elle ne serait pas allée voir son conseiller ou son ancien pour lui parler de ses problèmes. À tous ceux qui ont besoin de guérir, mais qui ne le sont pas encore, alors je leur conseille de prier Dieu afin qu'il leur amène quelqu'un qui est prêt d'écouter et prêt de prier avec eux. Je dis encore une fois pour ceux qui se tiennent solidement debout sur leurs deux pieds et qui sont capables de relever ceux qui traînent à terre, que fait-on alors? Que devons-nous faire si une personne vient nous parler de ses chagrins, de ses gros problèmes, ses anciens péchés ou d'une peur irrationnelle? Je lui demande de me parler de son enfance. Ce n'est pas faux. Et si elle en parle, je l'écoute attentivement et je me concentre complètement sur sa personne. Et je prie pour que le Saint-Esprit réveille les souvenirs desquels elle doit se souvenir pour qu'elle puisse les dire, qu'elle puisse les dire avec des mots clés, ce qui va aider et nous aider à tout mieux comprendre. Et quand je prie ainsi, je m'oublie forcément, complètement, c'est important, car je n'ai conscience d'aucune pensée ou sentiment. Je ne déverse pas mon amour sur cette personne, car je sais que mon seul amour de humain ne suffira jamais à la guérir. Ainsi, je ne l'écoute pas pour ensuite lui faire la morale ou de lui prêcher un sermon. Si une personne me dit à propos de son enfance « Oui, j'ai eu une enfance heureuse », je ne le lui demande pas. qu'as-tu fait de mal ? Ou alors, tu dois avoir commis quand même un péché, ou bien tu ne dois pas avoir peur. Ou encore, il faut que tu donnes plus d'amour aux autres. Non, je lui demande quand est-ce que elle ou lui a commencé à être malheureux ou malheureuse. Bon, alors là, je peux maintenant savoir certaines choses, et car nous savons que chacun a péché une fois ou l'autre. Mais j'ai trop de respect envers l'âme et l'esprit de cette personne pour la submerger avec des questions et des réflexions déplacées. Je me dédie à la personne avec l'espoir que quoi que il ou elle a fait, eh bien, leur faute leur soit absolument pardonnée. Pardonner dans la mesure que je participe à tout cela et que eux aussi participent avec moi dans le saint nom de Jésus-Christ. Devrais-je alors ne pas vivre cette petite mort et mettre ma vie un moment de côté pour entrer dans la leur ? Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais tant que l'amour parfait du Christ ne peut pas être projeté à travers moi en eux, et ceci afin d'exorciser toute leur peur, ils ne peuvent pas faire autrement. Rien que le fait de décider ne plus avoir peur peut amener à avoir encore davantage peur. Et c'est sûr que ces personnes devraient donner davantage d'amour à autrui et aussi pour eux-mêmes. Mais cela, elles ne le peuvent pas, car elles ont été si blessées dans le passé que leur force d'aimer s'est totalement affaiblie. Il n'y a donc rien de plus décourageant pour une personne qui n'a plus la force d'aimer de lui dire qu'elle devrait donner plus d'amour. On ne dit pas non plus à un malade qu'il devrait être plus sain. Par contre, si cette personne me parle de son chagrin, sans me dire les circonstances exactes qui l'y ont amené, alors je lui demande « Pourquoi étais-tu si malheureuse ?» Ou alors « Que s'est-il passé pour que tu crois que personne ne t'aime ? » Ou encore une quelconque autre question sur la raison éventuelle de son chagrin. Mais je lui parle surtout pas de péché, car si le chagrin est en rapport avec le péché, ce qui est bien souvent le cas, évidemment, cela ressortira de soi-même tôt ou tard, sans devoir le chercher profondément. Je remarque aussi souvent qu'elle essaye de me raconter des histoires. Oui, les gens essayent de nous raconter des histoires par peur ou aussi par honte. On le comprend. Et si c'est le cas, eh bien j'attends et j'espère que grâce à la conduite, on peut dire donc la conduite de Dieu, n'est-ce pas ? Tout le reste va suivre. Et ce serait certainement mieux si je pouvais leur expliquer plus clairement ma méthode de travail et avoir un peu plus de temps, mais cela n'est malheureusement pas toujours possible car la plupart du temps, je ne les revois plus du tout et je dois alors faire de mon mieux avec les informations qui me sont données par la personne en détresse. Alors je prie souvent avec imposition des mains pour que l'amour du Christ puisse entrer dans cette personne et que l'amour du Christ puisse lui pardonner tous ses péché et pour que tous les chagrins du présent et du passé soient totalement guéris, que ce soit dans l'enfant qu'elle a été et dans l'adulte qu'elle est maintenant. Je commence par le présent et je régresse dans les souvenirs de son passé et fais allusion à tous ses péchés et toutes ses douleurs vécues dont elle a parlé. Ensuite, je prie pour la guérison de son âme, pour la guérison de son esprit et du rétablissement de sa véritable nature. Par cette prière, il existe un lien profond avec la pensée de l'autre. On sent très bien les sentiments de l'autre, si bien que du plus profond de notre piété, il va y avoir des larmes qui vont remonter jusqu'à l'âme et l'esprit de la personne. Mais nous ne pleurons pas par pur chagrin, mais nous pleurons par joie, car nous savons que ce ne sont pas nos propres larmes, mais celles du cœur en peine de Jésus-Christ qui pense à sa brebis perdue et qui a été retrouvée. Et la joie qui rayonne à travers les larmes, c'est la joie de Jésus-Christ d'avoir trouvé un canal par lequel il peut enfin atteindre cet homme, cette femme tant aimée de lui. Une fois, j'avais prié pour un homme, il y a longtemps de cela, qui n'avait certes pas atteint le point critique, une dépression subite, qui a été très subite, et il y avait là aussi un point critique, mais qui était, on peut dire, écrasé par un grand chagrin qu'il ne pouvait plus contrôler. Et cela le gêna dans son travail, d'autant plus qu'il n'y avait pas de raison dans sa vie actuelle pour de tels chagrins. Par contre, dans son enfance, il y avait une véritable raison, car il avait grandi très heureux avec trois autres frères qu'il aimait beaucoup, qui étaient un peu plus âgés que lui. Et quand il y a eu la guerre, ils ont dû partir au front et il avait l'impression de ne plus jamais les revoir. Jésus-Christ était à côté de lui, mais cela, il ne le savait pas encore en ce temps-là. Et le miracle s'était produit. Les sentiments liés à ce souvenir se sont transformés. Et dès ce jour, l'homme se rappela, non plus d'un petit garçon au cœur brisé, mais d'un petit garçon aimé et protégé par Jésus-Christ à ses côtés. Alors la blessure de l'enfant a été changée en joie et il était devenu une part de l'amour libérateur du Fils de Dieu. Comment cela se fait-il? Qu'est-ce que cet incompréhensible procédé? Je dirais simplement que cela est bien réel. Et pour terminer cette étude aujourd'hui, je dirais que les recherches de la psychologie moderne appuient nos certitudes chrétiennes et il existe en nous le conscient et le subconscient qui, lui, n'est absolument pas détaché de la vie, mais qui est lié avec l'esprit de l'humanité, c'est-à-dire le subconscient collectif. Je répète, le subconscient collectif. Et c'est pour cela, que nous pouvons ressentir les pensées ou les sensations d'un autre. Et maintenant, ce subconscient collectif, nos souvenirs en Jésus-Christ, appelés justice, vit maintenant en nous et revit dans la semaine de la Passion. Jésus-Christ, dans le jardin Gethsémané, créa un lien de pensée, pas seulement avec un seul homme, comme nous le faisons en priant, mais avec tous les hommes et les femmes qui ont jamais vécu et qui vivront sur cette terre. Parce que Jésus-Christ vit d'éternité en éternité, et 1000 jours pour lui sembleront comme un seul jour. Chers amis, si nous apprenons à créer un lien en pensée pour la guérison d'une maladie, nous pouvons nous réunir par notre piété et arriver par la prière à atteindre le subconscient de la personne malade. Quand notre Seigneur a pris tous nos peurs et tous nos péchés, il créa un lien avec nous et il est devenu un élément éternel de notre subconscient collectif, si bien qu'une partie de ce conscient est reliée à lui, et ceci encore aujourd'hui, qu'il est pour toujours. Oui, pour toujours, à la droite de son Père, avec le subconscient de l'homme. Il n'a pas de tombe sur terre, le Seigneur, car il est ressuscité, et son corps est devenu autant chair qu'esprit. Une part de lui est à jamais gravée dans le cœur des hommes. Si l'on reconnaît la vérité en sa libération, et le prions avec la foi pour que, enfin, le gros rocher qui nous barre le chemin s'écarte et qu'il peut ainsi sortir du subconscient collectif pour être un avec nous, alors le péché sera en effet détruit par la mystérieuse force de la croix et nous serons éveillés à une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Nous devenons donc des nouvelles créatures en Jésus-Christ et nous devenons une nouvelle création de Dieu. Ceci paraît mystérieux et incompréhensible, mais le comprendre est très important. Je te conseille pour cela, cher ami, si tu veux réellement libérer les gens avec cette merveilleuse manière de prier journellement pour le don de la compréhension et de la sagesse. Et de cette manière, nous continuerons ensemble l'œuvre du Seigneur qu'il a commencée sur la croix. Prions maintenant ensemble. Ô Jésus-Christ, toi seul, tu es le chemin, la vérité, la vie de nos âmes. Demeure en nous et nous en toi, comme toi-même tu demeures dans le Père. Hors de toi, nous ne pouvons rien, mais en toi, nous pouvons toutes choses. Que nous demeurions attachés à toi, ô divin cep, pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle tu nous appelles. Que ta grâce et ta paix repose sur nous, qu'elle repose aussi sur tous les nôtres, auprès et au loin, et que tous ensemble nous puissions t'invoquer et te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton Saint-Nom. Amen. Amen.